Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee.
Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, au live mensuel exclusif avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
Oh yeah! Bonjour à toutes et à tous. On est très très content de se retrouver aujourd'hui. Salut Laurent, aujourd'hui c'est le retour du boxon.
Salut Jérémy.
Creative. Salut, salut.
Ah oui, le voici. Donc,
le voici, le voilà. Aujourd'hui, Laurent nous a concocté un épisode intitulé Dreaming God's Dreams pour ce grand retour du boxon créatif, où il va nous parler de l'impact du mythe d'Icare qui vola trop près du soleil, de la différence entre safe zone et zone de confort, de la notion d'artiste, puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire artiste dans le fond, hein, de l'importance de s'engager à l'ère de l'économie connectée et du divin qui se cache derrière l'acte de création. Pourquoi a-t-on peur de suivre nos rêves? Tout un programme aujourd'hui dont seul Laurent a le secret. Mais avant de passer à l'interview du jour, nous aimerions remercier nos nouveaux contributeurs et contributrices sur Patreon et Tipeee. Alors c'est parti, un immense merci à Justine, Jaco, Colline Robin, Roman Mendes, Tania Gandreau, Annelise Bouillet, David Emmanuel, Alice Lagarde, Anne-Bénédicte Schwebel, Étienne Pipard, Alexandrie Delobel, Emeline Bini, Aurélie Boussuge, Louisel, Florence Flotte, Ninia Chassetuyer, Élisange Albert, Véro Randriana, Béatrice Menuel, Johan Chabuel, Kératine Bernard, Anouk Vignot, Marion Couder de Massy, Benoît Aupois, Pétula Rocher, Sylvie Delattre, Nelly Monnier, Laurent Duvoux, Lou Bimi, Julie Bandy et Flore Cousserand. Un grand merci à vous. Si vous désirez vous aussi nous aider à développer Sens Créatif et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club, rendez-vous sur www.patreon.com/senscreativepodcast. ou sur Tipeee, ça s'écrit www.tipeee.com/sens-creatif-podcast. Vous pouvez aussi retrouver les liens dans les notes de cet épisode ou dans le chat sur Twitch. Et sans plus tarder, mon cher Laurent, c'est le moment d'envoyer la sauce sur ce premier épisode du Boxon Créatif de cette saison 5. Et j'ai très très hâte de découvrir ce que tu vas un petit peu nous raconter aujourd'hui parce que je n'en ai aucune idée, si ce n'est le pitch officiel que tu as donné à tout le monde.
Ouais, je t'ai fait le pitch un petit peu avant. En fait, aujourd'hui, on va parler d'un super bouquin que j'adore. C'est un bouquin de Seth Godin. Donc, on vous en a déjà parlé de Seth Godin sur Sens Créatif. Plein de fois, je vous ai rabâché les oreilles avec. Et ce bouquin, ça s'appelle The Icarus Deception, la supercherie d'Icare en français. Seth Godin, on vous rappelle rapidos, hein, c'est un gars qui est très fort en marketing, qui a notamment bossé chez Yahoo pendant des années. Donc maintenant, il fait un petit peu ses trucs parce qu'il est très connu. Donc il a fait The Practice, il a fait All Marketers Are Liars, Purple Co. Si vous l'avez pas lu celui-là, top, super bien. Ouais, Inchpin, j'en ai plein à la maison.
Tu les as tous achetés, ça.
Tribes. Super cool aussi. Bah oui. Et puis celui-là, je sais que tu l'adores, Jérémy. This is Marketing, qui est vraiment une bible. Hein, celui-là, c'est un gros pavé. Et en fait, de quoi nous parle Seth Godin dans The Icarus Deception? Il nous parle de la société post-industrielle telle qu'on la connaît, qui en fait, elle est en train de disparaître. Parce qu'en fait, on est nés dedans. Et cette société post-industrielle à laquelle on a été un petit peu nourri, elle nous a promis plein de produits, des récompenses, peut-être même de devenir riche. C'est cool. Et tout ça, simplement, suivant les règles du système. Mais en fait, le système, c'est un petit peu le statu quo, hein, ce qui est en place, qui ne bouge pas, qui ne veut pas que les choses bougent. En fait, personne n'est sa carrière, parce qu'en fait, la carrière, elle ne nous définit pas. Tous les jours, on se cache derrière notre meilleur travail, derrière notre perspicacité, notre vraie personnalité. Et le système, donc, lui, il nous éloigne des personnes et des projets qui nous tiennent à cœur. Mais du coup, les règles, elles ont changé, parce que sinon, il n'y aura pas d'épisode, ça servira à rien d'en parler. Et la société de l'âge industriel qui disparaît, elle fait place maintenant à une nouvelle ère qui est l'ère de l'économie connectée. Ça, on y viendra tout à l'heure. Je vous expliquerai un petit peu de quoi il s'agit. Alors, évidemment, c'est dommage d'avoir perdu tout ce temps parce qu'elle est là depuis un moment quand même, l'économie connectée. Mais ce qui serait impardonnable, c'est surtout de ne pas s'y mettre maintenant, quoi. Voilà. Donc, je te propose, Jérémy, de m'accompagner aujourd'hui pour une heure et quelques. J'espère pas trop dépasser. C'est assez dense. Pour aller explorer un petit peu tout ça. Et peut-être...
Non, mais je me questionne quand même sur pourquoi Dreaming God's Dreams. C'est quand même un putain de titre, si je puis me permettre.
C'est un putain de titre. Mais je vais pas spoiler parce qu'en fait, vous allez découvrir plus tard pourquoi on va parler de divin.
Ouh, ok, d'accord. Je suis tout ouïe.
Dites-vous un truc, c'est que peut-être ça pourrait ne pas marcher, tout ce qu'on va dire. Voilà, je tiens à faire le préambule comme ça.
Super.
Alors, ça vaut la peine. En gros, dans les grandes lignes, pourquoi on s'auto-sabote? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a peur de suivre nos rêves? Pourquoi on fait ça? Bon, ça, pourquoi on le fait pas, justement? Et pourquoi on a toujours besoin de la permission de quelqu'un pour s'y mettre? Voilà. Pourquoi?
T'as eu besoin de ça, toi?
Pourquoi on y va? Ça m'est déjà arrivé. Je pense que toi aussi, t'as parfois attendu la permission de quelqu'un jusqu'à te rendre compte qu'il fallait attendre la permission de personne parce que personne n'allait te la donner. Moi, je sais que oui, souvent, j'ai attendu la permission. Go, vas-y, Laurent, c'est bon, t'es trop fort, mets-toi-y, quoi. Et voilà. Mais c'est souvent avec des personnes avec qui je travaille, même avec toi, je pense que j'ai toujours ce process des fois qui se met en place au lieu de prendre les initiatives que je sais très bien faire. Et parce que c'est rassurant que quelqu'un te dise « Go, on y va ». Alors, vous l'avez vu dans le titre, la supercherie d'Icare. Ça veut dire qu'on va parler du mythe d'Icare. Pourquoi on parle du mythe d'Icare? Vous connaissez certainement l'histoire. Je vais vous en faire le résumé classique qu'on fait habituellement.
Petit cours de grec, là, en direct sur Sens Créatif.
Un petit cours de mytho. Le mythe d'Icare est un récit mythologique se déroulant sur l'île de Crète qui raconte l'histoire d'un jeune homme, Icare, qui, pour échapper à la prison du roi Minos, le Minotaure, tout ça, vous connaissez. On en avait parlé d'ailleurs dans le boxon numéro 3, Maze. Vous voyez, tout est connecté. Il s'envole du labyrinthe à l'aide d'ailes faites de plumes et de cire confectionnées par son père, Dédale, qui était l'ingénieur le plus extraordinaire de son époque. Et malgré les recommandations de son père, Icare meurt après avoir volé trop près du soleil et il se noie dans la mer.
Quelle idée.
Ah, et la loose. Évidemment, il y a une morale à tout ça. Ce mythe, d'ailleurs, il est souvent interprété comme une métaphore pour décrire les dangers de l'orgueil excessif et de la désobéissance. Et comme évidemment, le soleil c'était considéré à l'époque comme un dieu, comme une divinité, la punition, elle est divine. Donc, ne désobéissez pas au roi, ne désobéissez pas à votre père, et craignez les dieux.
Ouais.
Drôle de morale.
C'est pas très empowerment. Empowerant. Ouais,
c'est pas
ça.
Empowerant du tout. Alors évidemment, ce que le résumé ne dit pas, et qui est pourtant tout aussi important dans l'histoire, c'est que Dédale ne fait pas que recommander à Icare de ne pas voler trop. Il lui dit aussi de ne pas voler trop bas, trop près des vagues. Ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. En fait, la société industrielle et post-industrielle dont je parlais, en fait, elle a dévoyé les mythes. Elle nous encourage à oublier la partie sur la mer parce qu'elle a créé en fait une culture moderne où nous nous rappelons toutes et tous constamment les dangers de devoir se démarquer. Se démarquer, c'est pas bien, tu vois, tu sors du rang, tout ça, t'es pointé du doigt, ça va pas, quoi. On n'a pas le droit de sortir des clous, on n'a pas le droit de faire le boxon, quoi, en gros, voilà. Ça, c'est pas juste. Forcément, c'est un petit peu flippant. Mais cette même société, elle a également ignoré un type d'échec beaucoup plus commun. C'est celui d'avoir des attentes trop basses. Si on a des attentes trop basses, forcément, on va pas s'élever, on va pas faire grand chose. Alors, en réalité, c'est bien plus dangereux de voler beaucoup trop bas que beaucoup trop haut. Mais alors, pourquoi on l'a oublié?
Pourquoi c'est plus dangereux?
Qu'en fait, en réalité, tu vas te cracher, alors qu'en hauteur, tu peux naviguer, quoi. Dans l'absolu, c'est ça. Il y a, une fois que c'est bas, alors que le haut, finalement, c'est l'infini, quoi. Le ciel, l'espace, le cosmos, etc. Tu vois, c'est une métaphore aussi, évidemment. Ça reste dangereux de voler, ne vous jetez pas d'un toit, merci. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, on s'est habitué à ce que voler bas soit une zone de sécurité. Pas trop bas, voler bas, voler, on va dire, normalement, quoi. Et en fonctionnant ainsi, en fait, on se contente de faibles attentes et des tout petits rêves, tout simplement. Et en fait, ça nous garantit moins que ce qu'on est capable. Mais au moins c'est safe. Voilà. Et donc, du coup, bah, en fait, en faisant comme ça, on se fait un peu du tort à nous-mêmes, okay, quelque part, puis aussi du tort aux autres parce que ils peuvent pas profiter de nos capacités, de notre talent, puisqu'on on les restreint. Mmh. Et on est obsédé par le risque d'échouer, entre parenthèses, et de réussir, évidemment, vous connaissez la chanson. Et le chemin qui s'offre à nous, finalement, bah, c'est d'être humain, c'est de faire de l'art et de voler bien plus haut que ce qu'on nous a appris.
Oui. Mais avec, je sais pas, en épousant notre humanité, quoi. Je pense, de justement, d'être dans cette sorte de juste mesure, de pas être se prendre pour plus qu'on est, mais pas moins non plus.
Ah, c'est ça, c'est surtout ne pas se prendre moins. Voilà.
Ouais. Moi, j'ai ce rapport-là, entre guillemets, au pouvoir. Je me suis toujours dit que je voulais pas avoir trop de pouvoir, de peur de pas savoir quoi en faire, mais de pas non plus, mais pas moins non plus que ce que
de pas avoir zéro pouvoir. Ouais.
Voilà, c'est une sorte de juste responsabilité.
T'as pas envie d'être contrôlé tout le temps par d'autres personnes. T'as envie en fait de faire un petit peu de ta vie, quoi.
Oui, c'est ça.
Temps,
ouais.
Voilà, en tant que créateur.
C'est responsabilisant. Artiste. C'est responsabilisant. J'ai pas envie de vivre à moitié, moins que ce que je peux vivre, mais pas non plus prétendre à plus et péter plus haut que mon cul, quoi.
Voilà. C'est bien résumé.
Voilà, allez.
Alors, on parlait de cette fameuse safe zone, la zone de sécurité. Alors, je vais vous faire une petite analogie que Seth Godin utilise dans son bouquin. C'est l'analogie du renard. Pour attraper un renard, vous savez qu'un renard, c'est rusé, c'est malin. Il y a une technique qu'on peut mettre en place, c'est faire un appât pour le renard. Donc, on met l'appât pour le renard et en fait, on dresse une clôture juste devant l'appât. Un simple panneau de clôture. C'est-à-dire qu'en fait, le renard peut se barrer sans souci. Donc, il va mettre quelques jours à venir, à renifler, etc. Et puis, finalement, il prend l'appât, il voit que ça risque rien. Donc, du coup, il se barre. Étape suivante, on met un deuxième pan à la clôture. Toujours pareil, l'appât, le renard arrive, il sniffe, il est content, il prend l'appât, il s'en va. Tout est tranquille. On rajoute un troisième pan à la clôture. Toujours le même processus. Le renard prend l'appât et s'en va, il est tranquille. Et on finit par mettre le quatrième pan avec une petite ouverture. Le renard entre parce qu'il va renifler l'appât. Pour lui, c'est safe. Et du coup, bah, le renard est piégé. Et bah, devinez ce qui nous est arrivé à nous.
On a fait pareil.
Toute notre vie, en fait, elle consiste à coordonner notre zone de confort et notre zone de sécurité ou safe zone. Comme le renard, en fait, on a été entraîné par le statu quo de l'ère industrielle et post-industrielle à rester à l'intérieur de la clôture. Parce qu'à l'intérieur de la clôture, en fait, c'est la safe zone. Jusqu'à ce que, évidemment, il soit trop tard. La plupart d'entre nous, en fait, on n'a aucune idée qu'on n'est plus du tout enfermé. Parce qu'en fait, bah, le monde a changé. C'est-à-dire que la clôture, en fait, elle a fini par exploser puisqu'on n'est plus dans cette ère industrielle où on avait une voie toute tracée. C'est-à-dire que les écoles, elles ont été mises en place parce qu'il y avait les industries. Ça te permettait finalement d'avoir un bon job, il y avait du boulot à la sortie, tu faisais ta vie de famille, etc. Et t'étais heureux, t'avais une maison, t'avais une voiture et compagnie, la télévision, etc. C'est un petit peu la société un petit peu typique à l'américaine, années 50-60, voilà, quoi, ouais. telle qu'elle existait. Mais en fait, on est resté très longtemps là-dedans. Et même dans la post-industrialisation, on est encore resté dans ce truc-là. En fait, la clôture qui nous maintenait comme ça, en fait, elle a disparu. Mais en fait, on se sent toujours à l'aise dans les anciennes limites. Tu vois le truc.
En gros, tu vas nous inviter à tout péter, mais
je vais mettre un petit schéma. Je vais mettre un petit schéma sur c'est sur ta tête. Je suis désolé, Jérémy. En gros, voyez, il y a deux choses. Voilà. J'explique un petit peu pour ceux qui nous écoutent. C'est qu'en gros, il y a ce qui s'appelle la zone de confort. Donc imaginez un cercle, c'est votre zone de confort. Et juste autour de cette zone de confort, il y a la zone de sécurité. Et à la base, en fait, elles sont alignées. C'est-à-dire qu'en fait, la zone de confort est à l'intérieur de la zone de sécurité. Le souci, c'est qu'avec le changement de paradigme qui est en train de s'opérer, en fait, la zone de sécurité, elle s'est déplacée. Et notre zone de confort, en fait, elle est restée au même endroit. Ce qui fait que maintenant, en fait, dès qu'on sort de notre zone de confort, on le sait pas, mais on est tout de suite confronté à la zone de danger, à la zone de l'inconnu, parce qu'on a plus ce tampon en fait de la zone de sécurité qui est parti.
Donc voilà un petit peu l'idée. Ça va, Jérémy, tu as des questions, tu suis ou il y a un truc pas clair?
Non, mais est-ce que tu veux dire qu'en fait on a beaucoup plus de confort qu'on ne le croit?
Ouais.
Et que
on a beaucoup plus de sécurité qu'on le croit, parce qu'en réalité ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini par confondre la zone de confort avec la zone de sécurité, parce que ça bougeait jamais. Donc du coup, en fait, cette confusion là elle est un peu pernicieuse, parce que le moment où la zone de sécurité se déplace, notre zone de confort se réduit sans qu'on s'en rende compte.
C'est quoi la différence entre zone de sécurité et zone de confort, excuse-moi?
La zone de confort, en fait, on est vraiment tranquille. Il peut rien se passer. C'est la zone où on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas dérangé et on peut produire tout ce qu'on veut. Ça sera pas remis en question. La zone de sécurité, c'est la zone limite, en fait, qui nous permet de pousser un petit peu tout. Mais on peut pas aller plus loin que cette zone. Cette zone de sécurité. Sinon, on se retrouve confronté à nos peurs, aux dangers, à l'inconnu et compagnie. Vous vous souvenez, on avait parlé du cadre dans un ancien boxon, et je vous avais dit que se trouver finalement sur la ligne tangente, en fait, de ce cadre-là est un endroit parfait pour la créativité, parce qu'on était à la fois en visuel de la zone de confort et à la fois en visuel de la zone de danger. En fait, c'est cette zone, cette ligne-là est la zone de sécurité.
Ouais. C'est ça qui est stimulant, a priori.
Exactement, c'est ça.
Même si j'ai déjà entendu, enfin, je veux dire, je sais pas trop où je vais avec ce que je vais dire, mais on entend beaucoup, c'est notamment dans le monde entrepreneurial ou artistique, il faut sortir de sa zone de confort, etc. Mais que, ou même relationnellement, ou que sais-je, mais que quelque part, la zone de confort, elle est pas non plus si mauvaise. Comme vous avez l'habitude sur Sens Créatif, on dit parfois tout et son contraire. Mais c'est aussi, on a tout le... Ce qui me dérange un tout petit peu avec cette histoire de sortir de sa zone de confort, c'est que il y a ce truc un petit peu vraiment capitaliste, genre où il faut presser le citron à mort, à mort, à mort, à mort, et que quand il y a plus, et qu'en réalité la zone de confort, elle est aussi importante. C'est comme une base, c'est rentrer à la maison pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir repartir.
Ouais, mais
et que c'est important de jongler entre les deux. Je sais que c'est pas ce que tu dis, hein, mais je rajoute le petit bémol, quoi.
Bah, c'est intéressant, parce que ton bémol, j'espère que je vais exploser. Parce qu'en réalité, en fait, cette zone de confort-là, elle va jamais partir. En fait, c'est ta zone de confort. Donc, elle peut pas disparaître. Donc, tu peux toujours te réfugier dedans. Hein, l'idée, c'est pas de l'effacer, de la gommer et qu'elle n'existe plus,
oui,
et d'aller
voilà.
systématiquement dans la zone de danger. C'est pas le propos. Le propos, c'est de se dire que dans ta zone de confort, tu vas rien créer de nouveau. Tu vas pas te confronter justement au changement.
La créativité
n'est pas dans ta zone de confort, en fait.
Ouais.
Voilà, tu l'as déjà, t'as déjà fait des choses, tu les as ramenées dans ta zone de confort. Tu vas juste recycler et peut-être marketer ce que t'as déjà fait. Tu vois, le marketing finalement est peut-être le marketing qui est pas très agressif. Il est dans ta zone de confort, on va dire, parce que tu as déjà tes choses et tu vois un petit peu l'idée.
Oui.
Donc voilà. Alors. En fait, pour reprendre le fil, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut réaligner sa zone de confort avec la nouvelle safe zone actuelle. Et ça va pas être de la tarte. Parce qu'en fait, il existe toujours une safe zone, évidemment, mais elle est plus du tout à l'endroit où on se sentait à l'aise. Et la nouvelle zone de sécurité est le lieu légèrement chaotique, où justement, c'est ce qu'on disait, tu vas trouver l'art, la créativité, la destruction et la renaissance également. On monte d'un petit cran.
The matter of death and life and resurrection.
Mais c'est
ça. On arrive déjà du côté philo, là.
On parle de la vie, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que est-ce que la vie, elle peut vraiment évoluer, s'épanouir, se développer uniquement dans la zone de confort? Moi, j'en doute. J'en doute fortement. Parce que même si on reste dans sa zone de confort, il y a toujours un truc qui va nous mettre à mal et va nous obliger à en sortir, en fait.
Mais c'est la quête du héros. C'est le besoin de
Joseph
partir.
Campbell.
Et puis dans le cycle, il y a le moment où tu te rends compte que t'as un boss à battre et qui va te tuer. Et donc t'as besoin de mourir à toi-même pour renaître, un peu comme Gandalf le gris qui devient Gandalf le blanc, pour pouvoir changer, quoi. Donc c'est nécessaire, mais c'est pas rigolo à vivre, évidemment.
Ah bah non, pas du tout. En fait, c'est se déplacer dans une nouvelle zone de sécurité, c'est un peu comme apprendre à nouveau à nager, quoi. Parce qu'il faudra apprendre les règles, il faudra apprendre l'environnement, etc.
Et attends, ouais. Attends, excuse-moi, je te coupe parce
Vas-y.
Que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Ça fait écho. Mon fils est né, il est Felipe de la natation. et de mettre la tête sous l'eau, là où le petit dernier a déjà mis la tête sous l'eau, ça lui pose pas du tout de problème. Et vraiment, d'un point de vue traumatique, il est vraiment genre, on lui avait payé des cours de natation, il a fait 2-3 cours, c'était plus possible, on avait l'impression de le pauvre qui vivait un film d'horreur à chaque fois, ça l'avait fait tomber. Et ce week-end, on a été dans une piscine qu'il aime bien, et on a pris des renseignements pour des cours particuliers pour lui, justement, pour qu'il apprenne à nager et à mettre la tête sous l'eau. Et il a accepté, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il aime bien cette piscine. Parce qu'il l'associe à quelque chose de chouette. Et donc, du coup, tu vois, ça vient faire écho avec ce que tu es en train de dire. C'est que sa zone de confort, il se dit, ah, dans cette piscine, parce qu'on lui a demandé, est-ce que ça te dirait? Il a dit oui, mais dans cette piscine-ci. Et donc, du coup, il est prêt à rentrer dans la zone de sécurité et d'inconfort pour avancer. Mais il a défini avec nous, évidemment, un peu son cadre, quoi.
C'est génial.
Pas mal, hein?
Bah, c'est super.
Ça rentre dans ce que tu voulais raconter.
Mais complètement. D'ailleurs, on en parle après, en fait, de cette réaction du cerveau qu'il a dû expérimenter, j'imagine, quoi. Mm-hmm. Du coup, faut que je reprenne. En fait, je te jure, j'ai des notes, c'est du
délire.
Donc, c'est pour ça, en fait, que ressentir de l'inconfort, être boosté par l'envie de changer les choses, en fait, de repousser les limites, d'assumer et de revendiquer les échecs pour mieux se relever et avancer, sont des facteurs qui nous indiquent toujours, en fait, qu'on est dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'en fait, hein, ce sont ces stimuli un petit peu flippants. Quand on les ressent, il y a un truc qu'il faut essayer de de conscientiser, d'essayer de comprendre, en fait. Et évidemment, plus on expérimente, plus on réévalue cette zone de confort. Donc, à chaque fois, la zone de confort, elle peut évoluer.
Elle s'élargit.
S'amplifier. Exactement, c'est ça. Mmh. Évidemment, quand on a un traumatisme, on va réduire la zone de confort va se réduire. On va être finalement ennuyé par des choses qui étaient safe. Et c'est toujours ce jeu-là, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Mais plus on se confronte aux peurs, aux problématiques, plus on a de chance aussi d'augmenter cette zone de confort et puis finalement d'investir la safe zone qui, elle, se déplace sans cesse. En fait, c'est une histoire de mire un petit peu, hein, tu vois, tu essayes de suivre un petit peu la mire. En fait, créer des idées qui se propagent et connecter ce qui est déconnecté sont les deux piliers de notre nouvelle société, de cette société de l'économie connectée. Et évidemment, tous les deux piliers, en fait, nécessitent la posture de l'artiste. Alors, posture, j'aime bien le terme, parce que c'est le terme qu'on utilise aux arts martiaux quand on se déplace, on passe d'une posture à l'autre. Et je trouve ça intéressant d'avoir la posture de l'artiste. Et on va en parler évidemment après. En revanche, à contrario, nourrir le statu quo et se démener pour en faire partie, en fait, ça sert plus à grand chose parce que notre culture et notre économie ont changé. Et évidemment, les artistes, les créateurs et créatrices ne sont pas invulnérables. Alors, tu parlais de l'expérience de Félix à la piscine. C'est génial parce qu'en fait, Seth Godin, il a un méga bon exemple, en fait, pour parler de ce que j'appelle le lizard brain syndrome, le syndrome, en fait, du cerveau reptilien. Alors, un petit mot sur le fonctionnement de notre cerveau. Dans son livre, Seth Godin, en fait, nous partage une anecdote sur ses étés passés dans les forêts du nord de l'Ontario. Au bord d'un lac se trouve un plongeoir en bois vermoulu à peu près d'une hauteur de 7 mètres qui est connu de tous les enfants intrépides du coin. C'est un passage obligé pour tous les casse-cous. Et le deal est simple, une fois que t'es arrivé en haut, en fait il faut sauter. Il n'y a pas de retour en arrière possible parce qu'en fait redescendre les marches c'est encore plus dangereux que de sauter dans l'eau.
Okay.
Évidemment, en fait ça arrivait souvent qu'un enfant soit arrivé en haut. Et en fait, il se fiche de terreur au moment de devoir sauter. Ça peut durer des heures, il est là, il est prostré, il ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est confronté à ce genre d'émotions contradictoires? Entre le moment en fait, où on est excité à l'idée de le faire et le moment où notre système interne va bugger complètement. De l'extérieur, c'est difficile à comprendre. Parce qu'on se dit, il avait l'air courageux de monter et de vouloir sauter, quoi. En fait, évidemment, tout se passe à l'intérieur, en fait, de l'esprit du plongeur. En fait, au début de l'ascension, t'as le lobe frontal, en fait, qui est un petit peu la zone de l'expérimentation, de l'exploration, hein, qui aime bien l'aventure, en fait, qui nous dit que ça va être fun et héroïque. Ça va être génial, on va plonger, ça va être cool, et puis tout le monde va dire qu'on est super fort. Et l'autre partie du cerveau, celle qui est censée flipper, en fait, elle a pas encore assez d'arguments pour intervenir. C'est le cerveau reptilien. Puis lui, en fait, il se dit en sourdine, je m'inquiéterai plus tard. On verra. Pour le moment, ça va, je m'inquiéterai plus tard. Mais en fait, quand on arrive tout en haut, bah, le cerveau, en fait, il change de conducteur.
Mmh.
Et la partie la
plus
forte.
C'est le reptile.
C'est ça, le reptile, prend... en fait. Le lézard, il prend le contrôle. Donc, cette partie ancestrale. Hein,
Mayday, Mayday, Mayday.
C'est Mayday. Alerte rouge. Arrête tes conneries, c'est haut, c'est dangereux, c'est totalement débile de sauter. Alors, quand on arrive à vaincre cette peur-là, à plonger, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, le plongeur, il sort de l'eau et il se précipite à nouveau vers les marges du plongeoir. Et en fait, il a qu'un souhait, c'est de recommencer. C'est comme tu disais, en fait, la zone de sécurité, elle s'est ajustée par le biais de l'expérience. Et la zone de confort, en fait, elle s'est alignée sur la zone de sécurité, pour le moment.
Mmh.
Et en gros, en fait, c'est une opportunité. C'est-à-dire que s'il y a opportunité, en fait, tu peux faire de l'expérience une nouvelle habitude. Et peut-être, oui, justement, que pour Félix, mais en fait, c'est ce qui va se passer. Il va prendre une nouvelle habitude pour avoir mieux réévalué, en fait, sa zone. Peut-être qu'il va apprendre à nager.
Mmh, ça serait bien. mais on choisit nous-mêmes. C'est ça qui est important, c'est qu'on se laisse pas imposer par l'autre. Par exemple, dans les premiers cours de piscine à Félix, on lui avait imposé un cadre qui ne lui allait pas. Là où on lui a suggéré dans un cadre qu'il aimait et où il a vraiment dit « oui, mais dans cette piscine ». Donc, je pense que du coup, ça rejoint un peu ce que tu racontes.
Oui, complètement.
De choisir nous-mêmes notre cadre pour se régénérer et prendre des risques. Et
c'est ça, parce qu'en fait, quand t'es imposé, en fait, la peur, elle arrive direct, et le doute, le manque de confiance en soi, etc., tout ça, c'est hyper important. En fait, pour gagner ces capacités-là, on verra plus tard ce que j'appelle des capacités divines, le courage, et le courage de s'y mettre, d'y aller. En fait, oui, c'est ça, il faut ménager ces zones-là, il faut faire en sorte, en fait, qu'elles soient productives. Évidemment, ça nous amène, hein, tous ces gestes héroïques à la notion de talent, le mythe du talent.
Gros sujet aussi, ça.
C'est un gros sujet, ouais.
C'est quoi? Ce ne sont pas les plus riches qui sont les plus talentueux. C'est Panoramis qui disait ça dans Astérix et Cléopâtre. Vous voyez, je vais continuer avec ma daronité pendant tout cet épisode.
Peut-être nous sortir.
Vas-y.
En gros, quand on se parle à soi-même, qui écoute-t-on au juste? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça?
Quand on s'écoute soi-même,
quand on se parle à soi-même, en fait, qui écoute-t-on au juste? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs Jérémy dans ta tête? Il y a plusieurs Laurent.
Il y a le Jérémy aware, il y a le Jérémy flippé, il y a le Jérémy fatigué, il y a le Jérémy courageux, il y a le Jérémy égotique qui se prend pour plus gros qu'il n'est.
Ah, si vous avez l'image du film d'animation Vice Versa des studios Pixar, je pense que vous voyez de quoi on veut parler.
Ouais, ça c'est les émotions.
C'est les émotions, mais c'est aussi les différents types de personnalités qui sont justement générées par tes émotions.
Moi j'aime bien l'image dans Matrix. Je sais que t'es un grand fan de Matrix.
Oui, j'adore ça. Non, mais j'aime bien le mythe de Matrix. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. On va pas refaire le débat, merci.
Mais c'est dans Matrix Reloaded, je crois, quand il rencontre l'architecte et l'architecte lui pose une question et il y a plein d'écrans avec plein de réactions de Neo différentes.
Mm-hmm,
et
ouais.
Puis après, il se concentre et la caméra zoome sur une des réactions. Et c'est vraiment à chaque fois une question de choix, en fait. En face d'une information qu'on reçoit, en face d'un stimuli, quel est le choix que on pourrait réagir de plein de façons différentes. Mais au moment T, on fait à chaque
on
fois
un choix,
parfois bon ou mauvais. Et c'est, de nouveau, c'est responsabilisant.
C'est un petit peu informatique. En même temps, l'homme a inventé l'informatique, donc c'est presque logique. Mais c'est vrai que quand on fait un choix, c'est un peu cette histoire de on-off 0-1. En fait, une fois que le choix est fait, ça nous envoie sur une autre direction et on va se retrouver à nouveau à devoir faire un choix, etc. etc.
C'est comme un livre dont vous êtes le héros.
Exactement. Nos vies sont faites de choix comme ça. Des fois, on n'a pas le choix, évidemment, mais on est quand même poussé dans une des deux directions, quoi qu'il arrive. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous un petit peu des schizophrènes en puissance, mais que en gros, quand on arrive en haut du plongeoir, en fait, il y a une part de nous-mêmes qui veut plonger et une part de nous-mêmes qui veut pas. En fait, la partie primitive, ce qui se passe, c'est que le lézard, en fait, il nous dit de la jouer safe. Tout simplement.
C'est son rôle.
Bah oui. Mmh. Et notre économie, en fait, elle s'est acharnée pour mettre en valeur et récompenser le lézard depuis des décennies, des décennies. En fait, on a construit une société autour de l'idée de faire de l'artiste l'exception. Et puis de l'héroïsme, hein, l'acte de bravoure, en fait, l'exemple rare qui confirme la règle. Est-ce que ça, c'est logique?
Non, évidemment, parce que la vie ne réside pas dans le statu quo et dans le fait de ne pas se mettre en mouvement. Mais je ne sais pas si c'est moi, c'est peut-être un prisme personnel ou le fait de squatter avec beaucoup d'entrepreneurs, mais j'ai l'impression que la tendance est plutôt à l'inverse aujourd'hui, qu'il y a vraiment autant je crois profondément dans le fait de développer ses talents justement et de les offrir aux autres. Je vous refais pas la chanson, vous me connaissez. Mais de l'autre, une sorte d'injonction à la différence, à produire, à être différent, à tirer son épingle du jeu et à presser le citron justement. Et j'ai l'impression que le statu quo aujourd'hui, il est vraiment montré comme le grand vilain. Et je pense qu'en effet, il est vilain d'une certaine manière.
Ah, le statu quo est toujours vilain.
Ouais,
quand t'es artiste, mais quand t'es artiste, le statu quo est toujours vilain.
Mais j'ai l'impression que du coup, c'est comme si l'entrepreneuriat était devenu une nouvelle injonction. Alors que je sais que là où tu veux aller, tu veux parler de créativité, de liberté, de mouvement. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, mais les nuances, parfois, elles sont pas évidentes à...
Ah non, mais c'est logique parce qu'en fait...
On est dans des économies de création.
Eh oui, mais t'es toujours confronté à ça. C'est-à-dire que t'es confronté, on en parlera un tout petit peu plus tard, mais t'es confronté à la différence entre l'art et le marketing.
Oui, voilà, exactement.
Et c'est ça, exactement. c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je suis pas en train de vous parler évidemment de marketing. Là, aujourd'hui, on s'en moque un petit peu. On va parler vraiment de ce qui est l'acte
de création. Créatif. Ouais,
créatif.
Ça, c'est beau.
Et oui, évidemment. Et évidemment, le statu quo fait en sorte que tout ça se confonde. Parce qu'en fait, dans l'économie connectée, telle qu'on la vit maintenant, en fait, l'art est mis en avant. C'est un des produits phares, en fait, de cette économie connectée. C'est-à-dire faire de l'art, faire du contenu, faire de la création, inventer des nouveaux concepts, etc. Blablabla. Tout ça est récompensé. C'est vraiment récompensé. On n'est plus dans une ère justement de production. En fait, la production, on produit du contenu, d'accord, mais on produit plus en fait de. On n'est plus dans une injonction de d'avoir une belle voiture, une belle maison. Là, là. Tout ça, ça a vachement évolué. On est vraiment dans d'autres choses. Et évidemment, le statu quo, lui aussi, il va se déplacer. Lui aussi, il va essayer de normaliser tout ça. Et finalement, de définir des nouvelles règles dans lesquelles il faut rentrer dans le cadre, il faut rentrer dans les petits costumes, dans les petits box, etc. Et c'est toujours ça. Et en fait, quelque part, moi, j'ai envie de dire que le rôle de l'artiste, c'est justement de se rebeller contre ça. Sinon, à quoi bon ?
À quoi bon ? Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, continue, parce que là, il y a eu du boxon, là, il y a eu de la vie. Et c'est ça qui nous intéresse.
Bah, c'est ça. Enfin, en fait, le pire de tout, en fait, c'est qu'on a inventé la notion de talent spécifique.
Tu développes ?
Ah oui, je vais développer. En fait, si c'était si évident que ça, que ceux qui ont du talent sont les plus forts et puis que d'autres ont pas du tout de talent, alors pourquoi c'est si difficile de parier sur les gagnants ?
Mmh.
Et pourquoi, en fait, on est toujours surpris dès qu'il y a un outsider qui triomphe ?
Je ne sais pas.
Ben voilà. C'est ça le truc, en fait, c'est que finalement le talent, il a aucun sens, en fait. C'est quelque chose qu'on a inventé pour justifier une espèce de facilité à la réussite.
Alors, oui. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Et tout ça, évidemment, c'est complètement bidon. Ce qui fait là, j'ai pris un exemple sportif, hein, de parier sur quelqu'un qui va gagner. La carrière sportive, elle se fait sur le travail. Sur les exploits qu'il arrive à réaliser, sur les hauts et les bas en fait qui subit et le fait qu'il se relève, c'est ce qui fascine les gens. Quand Mohamed Ali se relève pour gagner des combats, c'est pour ça qu'il devient une légende et un mythe, etc. Quand un grand sportif se blesse et revient, ça fascine.
Oui, c'est pas la réponse attendue.
Voilà, c'est ça exactement. C'est pas la réponse attendue. Alors,
ça c'est intéressant aussi avec le fait que tu disais le statu quo il se déplace, ça vient rejoindre un peu mon mon petit doute là, le fait que ben peut-être que le statu quo désormais c'est de devoir être une bête en marketing pour réussir, alors que c'est intéressant, oui, mais c'est pas obligatoire. Ou comme quelqu'un le mettait dans le chat, et si l'image de l'artiste rebelle était aussi une injonction cliché, au final, tout ce qui est cliché, toute injonction, tout statu quo, on n'est pas obligé de s'enfermer dedans,
non.
Même si elle est confortable. Bon, c'est des lieux communs, mais...
Bah non, mais c'est important quand même.
Mais c'est pas simple.
Ouais. Bah oui, c'est important de rappeler tout ça, et non, c'est pas simple du tout. Et oui, quand tu dis... Finalement, bah, le marketing devient une espèce de nouveau statu quo parce que tout doit être brandé, tout doit être marketé, tout doit être bien réfléchi au millimètre près. Hein, on parle d'inbound, outbound, d'automatisation pour les produits justement de contenu. Tout ça c'est devenu une science, c'est devenu justement une compétence spécifique, une compétence de haute volée. Parce que les gens qui le font sérieusement le font à un niveau dingue. D'ailleurs, la preuve. Toi et moi, on a essayé de s'y mettre au marketing. C'est pas fait pour nous, quoi. On fait le minimum qu'il faut parce que le produit, c'est Sens Créatif et il faut que Sens Créatif puisse être un petit peu solide pour exister. C'est important. Sinon, ça serait un peu bordélique à produire. Mais c'est pas comme ça qu'on le produit réellement. On produit beaucoup Sens Créatif de façon très spontanée, très vivante. Et même si on suit quelques règles, c'est pas tellement notre ADN d'artiste. Ah, j'ai dit que t'étais un artiste. Ça te fait chier ou pas?
Maintenant. Enfin, ça me fait chier. mais c'est vrai que aujourd'hui, je me considère plus comme un créatif que comme un artiste.
Ah, c'est quoi la différence?
Ben, pour moi, là.
Vas-y!
Attends, c'est pas très frais dans mon esprit, mais je me souviens que j'ai eu un moment donné un petit shift comme ça où. Je pense peut-être que je m'étais trop attaché à cette image d'artiste, justement. Oui, c'est ça, en fait. C'est que je me suis vraiment construit. Je vous raconte ma vie parce que tu me poses la question.
Bah oui, mais c'est important.
Mais je sais que plus jeune, je me suis vraiment construit cet ego, cette image d'artiste de moi. Moi, je suis différent. Vous savez, moi, je suis un artiste. Moi, je décide. Moi, je suis le meilleur de ma classe pour le dessin. J'aime tout ce qui est un peu l'expression orale, la poésie, le cinéma, la musique. Enfin, je veux dire, je me suis vraiment construit un peu un personnage là-dessus. Jusqu'à ce que sur le temps, je me suis rendu compte que, en me confrontant à d'autres aussi, en faisant Sens Créatif, en rencontrant d'autres personnes, en me comparant aussi, mais dans le sens positif du terme, pas en faisant une comparaison genre « il est mieux que moi », mais plutôt de confronter mon vécu avec celui des autres et leur création. Et je me suis rendu compte que j'étais peut-être pas aussi... artiste, je pense qu'aussi, pour ceux qui... tu vas éluder au divin un peu plus loin, mais je fais une petite allusion à l'énéagramme aussi. Bon, c'est un petit peu ésotérique pour ceux qui connaissent, mais je me suis rendu compte que l'artiste énéagramme type 4, je m'y retrouvais pas vraiment dedans, en fait. Et c'est en ça que tout ça est venu un petit peu éroder cette image que je m'étais auto-construit d'artiste, dans le sens noble du terme, et que presque à la limite, ça me réduisait que aujourd'hui, je me considère plus comme créatif et ça me libère le fait de ne pas me réduire un peu à cette image que j'avais de l'artiste, justement. J'ai un peu fait péter le cadre et ça m'a permis de ne plus m'obliger à me réduire à ce statu quo d'artiste que je m'étais préfait. Un artiste, il agit comme si, il aime ça. Qu'aujourd'hui, je suis un peu genre, par moment, j'agis en artiste et par moment, j'agis en créatif, par moment, j'agis en mec qui va regarder Petit Ours Brun avec son fils et qui va s'asseoir sur son bon goût, tu vois. Enfin, je donne un exemple comme ça à la volée, mais donc je trouve que c'est plus libérateur créatif aujourd'hui, mais c'est purement personnel et c'est pas du tout obligatoire, quoi.
Bah non, mais tu viens de décrire une étiquette parce qu'en fait, t'as parlé de l'énéagramme. Dans l'énéagramme, vous avez des étiquettes, en fait. C'est comme un petit peu comme un jeu de rôle, hein. Vous êtes un voleur, etc. Et moi, j'aime bien, j'adore mettre des étiquettes. Mais évidemment, ça, c'est une étiquette. Il y aurait très bien pu avoir créatif à la place d'artiste. Et t'aurais fait quoi avec ça? Mais non, mais le truc est là. En fait, c'est quoi juste un artiste? Le truc, justement, que, moi, je me suis aussi posé la question, au cours de ma carrière.
Suis-je un artiste ou pas?
Et ouais, suis-je un artiste? En fait, je ne suis pas un artiste. Mais en fait, ça, c'est la réponse un petit peu facile. Parce que les artistes, c'est toujours les autres, évidemment.
Oui, c'est un artiste.
Moi,
Moi, je suis illustrateur. Lui, c'est un artiste.
Ouais.
En fait, l'artiste, tu vois, en gros, dans l'imaginaire collectif, c'est cette personne étrange et géniale, poète de naissance, tu vois, adoubée par les fées, puis évidemment recouverte de tatouages. Hein.
C'est hyper classe. Sur le visage.
Voilà. Mais non, mais en fait, si on entend ce terme d'artiste avec le grand A, en fait, bah on va directement dans une définition qui est fausse et un peu dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'évidemment, le statu quo, il va s'en servir. Il va se servir de cette image de l'artiste. L'artiste, c'est sacré.
Oui, pour l'artiste, te déresponsabiliser. Ouais, c'est ça.
L'artiste, c'est
ça.
Fait pour les gens qui ont du talent. Tu n'as pas de talent, tu n'es pas un artiste, au final. Et en fait, on te met ça dans le crâne. Et du coup, bah, c'est ce qui fait que tu, là, tu es aussi dans une injonction qui est toujours véhiculée par le statu quo, quel qu'il soit le statu quo. Je ne parle pas forcément de celui d'avant et du nouveau. Mais c'est un petit peu ça, le chemin sur lequel il veut t'emmener, en fait. Il veut te faire croire qu'il y a une étiquette. Évidemment, bah, je vous invite à réécouter les premiers boxons. En fait, on parle du statu quo si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que sinon on peut en parler pendant des heures et ça va être un petit peu chiant, alors qu'on en a déjà parlé. Évidemment, pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, on rappelle, c'est la société figée, régulée et entre guillemets consumériste qui n'a aucun intérêt à ce qu'on bouge, à ce qu'on change. Voilà. Et on n'y reviendra plus, c'est promis. Alors, artiste, c'est un problème d'étiquette. Mais l'art, ça fait peur. L'art, c'est pas forcément synonyme de beau. Et en réalité, l'art, c'est ce que nous faisons quand nous sommes pleinement vivants. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ah, c'est le flow, ouais.
Voilà, c'est le flow. En fait, dire j'ai aucun talent, vous l'avez forcément entendu des tas de fois, vous le dites peut-être à vous-même. Et puis, c'est évidemment une manière de se cacher. J'ai pas de talent, donc du coup, je me cache, c'est plus facile. Comme ça, j'ai pas besoin de résoudre. Voilà, j'ai rien à offrir. Passez votre chemin. Je vais recommencer à faire mes dessins dans mon coin, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui fait le sel d'un artiste, en fait, c'est qu'il prend les choses à titre personnel.
Ça, c'est sûr.
Il s'en fout
pas.
Il prend
les choses à. Ouais,
voilà, il s'en fout pas. Ou elle s'en fout pas. L'art est ce que nous sommes. Il est ce que nous faisons. Et il reflète aussi nos besoins. Ça, c'est super important. C'est quoi nos besoins? De quoi on a envie? En fait, l'artiste, il est là pour répondre à ça. En fait, c'est quelqu'un qui utilise la bravoure, le courage, hein, la version Brené Brown, évidemment, la perspicacité, la créativité et l'audace pour aller défier le statu quo, en fait. L'art, c'est pas un gène, c'est pas un talent spécifique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une attitude, c'est une posture. Coucou les arts martiaux.
Ouais, j'aime bien, parce que quand on fait péter un peu ce
cadre-là, de l'artiste, voilà.
On peut aller piocher dans notre mallette d'outils.
Ah oui.
On ne s'enferme pas dans. Moi, je ne suis que illustrateur. Moi, je ne suis que graphiste. Moi, je suis podcasteur. Et
du coup, on est tous artistes.
On enlève des parties de notre être, alors qu'en fait, on a tous et toutes une mallette dans laquelle on peut venir piocher en fonction des situations.
Et c'est pas grave si c'est un artiste avec un petit A. C'est pour ça, en fait, je me suis toujours posé cette question-là, en fait. Pourquoi c'est si compliqué, en fait, de se définir comme artiste, et je le comprends seulement maintenant qu'en fait c'est tout le carcan qui moi j'ai fait une école d'art, hein, donc j'avais une section art, hein, moi je faisais une section communication, donc déjà ils étaient plus artistes que moi, tu vois, à la base. Et en fait, le fait de se foutre ça dans le crâne, bah, ça te poursuit longtemps, ça peut même te poursuivre toute une vie, et du coup, en fait, tu te dévalorises, alors qu'en réalité c'était qu'une notion, et la vraie fonctionnalité de l'artiste, on l'oublie derrière. Hein, c'est pour ça que c'est important de dire que c'est pas un talent. C'est en fait c'est un way of life, être artiste, tout simplement. Ce qui est important de dire aussi, c'est que l'art, en fait, c'est l'œuvre singulière d'un être humain qui va toucher un autre être humain. Parce que si tu fais les choses dans ton coin et que tu touches personne, c'est pas de l'art, quoi. C'est pas le but. Tu crées des choses, quoi. Voilà, tu crées des choses pour toi, c'est super. Pourquoi pas? Ça peut être un postulat, tu peux l'assumer et t'as pas envie de montrer ton travail. Aucun souci. Mais le principe de l'art, en fait, c'est de connecter. C'est en fait d'aller toucher quelqu'un. Même une seule personne suffit. Et tu es déjà artiste, en fait, quand tu arrives à faire ça. Ça parle aussi à la préhistoire de l'humanité. Pourquoi on a commencé à faire de l'art? C'était quoi le besoin des peintures rupestres? On essayait de connecter, on essayait de partager, on essayait de créer des souvenirs aussi. C'est super important.
Tu sais,
comme ça que l'art est né.
Tu sais que le mot religion, son origine, c'est religare, et ça veut dire relier. Et je trouve intéressant le fait que dans les religions, on crée des rites ou des œuvres ou des... Quelque part, c'est de l'art, c'est à travers un symbole, à travers une image, à travers une chanson, à travers une liturgie. On s'unit les uns les autres pour vivre quelque chose, donc on crée de l'art pour se relier les uns les autres. Alors, ouais. Je vais pas...
Ah non, mais c'est...
Évidemment qu'il y a plein de choses qui peuvent... On peut détourner beaucoup de choses avec quelque chose de beau.
Non, mais c'est intéressant mais, de préciser.
Mais voilà, c'est relié, et que ce soit dans un cadre religieux ou pas, il y a le fait de créer quelque chose, un objet, de l'offrir à l'autre,
de connecter,
pour se relier les uns aux autres. Et je sais que, à titre personnel, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, notamment dans l'art, justement, c'est que c'est une proposition et que c'est... On n'est pas en train d'imposer un point de vue, on est en train de faire une proposition pour se lier les uns aux autres. Et on peut en discuter, on peut avoir des points de vue différents. C'est une invitation à se relier, à discuter, à échanger, à peut-être épouser un point de vue différent. Là où un discours ou quelque chose de plus noir et blanc peut-être, parfois un peu plus clivant, je trouve que l'art a cette possibilité-là. Et c'est ce qui fait que ça m'a vraiment attiré. Ça a été une troisième voie. Quand on se retrouve parfois dans des contextes un peu c'est oui ou c'est non, l'art permet une troisième voie.
Complètement, ouais, c'est ça. Et Seth Godin, en fait, il a un petit peu une définition, en fait, je vous la propose, hein. Il dit que s'emparer de nouveaux terrains de jeu, établir des liens entre les personnes ou les idées, travailler sans carte, si vous faites cela, vous êtes déjà un artiste ou une artiste.
Travailler sans carte, évidemment, ça te parle.
Bah oui, complètement. Bah en fait, c'est se rendre vulnérable quand c'est possible. C'est se soucier à la fois du processus et du résultat. En fait, c'est le type de craft en fait que notre société nouvelle, en fait, cette société de l'économie connectée, en fait, elle embrasse et qu'elle réclame surtout. Elle a besoin en fait de vulnérabilité. Et ça marche. D'ailleurs, vous pouvez réécouter le boxon numéro 2 où je vous raconte l'histoire de Mick Gordon, le compositeur de la musique de Doom, en fait, où il parle justement du concept « change the process to change the outcome », c'est-à-dire ne pas rester bêtement dans ce qu'on sait faire, et que si on nous remet en question, en fait, il faut savoir se remettre soi-même en question pour aller encore plus loin et que ça soit un succès. En fait, c'est une espèce de « tu te prends un mur dans la gueule, bang, hop, t'apprends quelque chose, bang, succès ».
C'est vrai que si tu te mets en vulnérabilité, tu te mets dans la zone de sécurité.
Ouais.
Et tu éludes à la zone d'inconfort.
Ouais.
Et c'est là où...
peut se passer des choses.
Ouais, ouais.
Que t'attendais pas et vraiment ça fait flipper. C'est normal que ça fasse flipper. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Les grands sportifs, avant un grand événement, ils ont la boule au ventre. Quelqu'un qui a fait de la scène toute sa vie et qui monte sur la scène de l'Olympia, il a la boule au ventre. C'est une réaction normale et humaine.
Il paraît que je crois, vous m'excuserez si je me trompe, mais je crois que c'est Jacques Brel qui avant chaque scène vomissait.
Tu m'étonnes.
C'est Jacques Brel ou quelqu'un d'autre?
Je sais pas. Je n'ai pas entendu sur Jacques Brel l'anecdote, mais ça, peu importe. Enfin, on imagine très bien que.
Ouais, voilà.
Si vous l'avez chez vous ou dans le chat, vous nous le dites. Mais oui, c'est ça. C'est cet effet-là en fait. C'était cet effet de flip en fait quand on se retrouve sur la ligne limite.
Ouais, quelqu'un nous dit dans le chat, c'est bien Brel.
C'est bien
et
Brel.
On s'imaginerait pas, c'est tellement un artiste tellement énorme. Et en fait, même lui, il dégueulait avant chaque passage sur scène.
Mais tu me fais mon enchaînement magnifiquement.
Je t'en prie, mon ami.
C'est génial.
Ça.
Pourquoi Jacques Brel, il vomissait, ton avis?
Je crois qu'il savait ce que ça allait lui coûter.
Exactement, il savait ce que ça allait lui coûter. En fait, il était engagé.
Il était engagé et il disait encore ce soir, je vais donner au public mes tripes, vais donner ce qui m'anime. Et ça, c'est du courage. C'est du courage parce que tu sais ce que ça va te coûter. On le voit, hein, Brel, sur les vidéos. Hein,
il
dégouline, il sue, il est habité, il est hanté. Et malgré tout, on le donne quand même. Et j'imagine qu'il y avait des soirs où il n'avait pas envie et il le faisait quand même.
Ouais, complètement.
Et ça, c'est beau.
En fait, tout ça, ça nous remet devant cette logique. C'est que l'art, c'est pas un résultat ni une fin en soi. En fait, bah, c'est un voyage. On aime ça sur Sens Créatif, évidemment. Une quête, quoi. C'est une quête, c'est un voyage. Alors, on parlait d'engagement. en fait, on n'a pas besoin d'apprendre à faire de l'art. Mais parfois, en fait, on a besoin, comme je disais tout à l'heure, d'une autorisation pour s'y mettre. Et évidemment, bah, suivre les instructions, c'est un petit peu overrated, on va dire. Comprendre les concepts, c'est sans valeur si on s'engage pas. Parce que s'engager dans le travail, effrayant de voler à l'aveugle, de prendre position et de créer quelque chose de nouveau, de complexe, c'est super important parce que si on fait pas ça, il va rien se passer et il va rien arriver. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait, c'est que si on franchit pas cette, cette limite qui fait peur,
il se passe rien.
Bah oui, qu'est-ce qu'on va, est-ce qu'on va vraiment toucher à la création? Est-ce qu'on va remettre en question des choses? Est-ce qu'on va vraiment, vraiment être un artiste si on reste dans sa zone de confort? Ça, c'est important et c'est un truc qui fait pas plaisir à entendre. Moi, je l'ai vécu plein de fois de vouloir rester dans ma zone de confort et de pas oser alors que j'avais la bonne idée. J'avais la bonne inspiration de faire les choses et je reste dans ma zone de confort pour pas faire de vagues. Icar, si tu nous écoutes. Alors. Malheureusement, il n'y a pas de chemin sans douleur pour atteindre les objectifs.
No pain, no gain.
Bah ouais, no pain, no gain, c'est super important ce concept. Moi, je l'ai vécu aux arts martiaux, c'est-à-dire que je me suis mis aux arts martiaux quand j'avais une trentaine d'années. Et évidemment, j'avais déjà fait du sport avant, je savais ce que c'était la douleur physique, etc. Mais là, ça rigole pas, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment une douleur qui va aussi toucher ton psychisme et les coups que tu prends. Deviennent finalement des informations sur le chemin que t'es en train de parcourir pour t'élever, pour t'améliorer, etc. Évidemment, tant que c'est fait dans un cadre bienveillant, bien sûr. Mais c'est hyper important. Et oui, j'ai enfin compris ce que c'était la douleur en faisant des arts martiaux. J'ignorais ça avant. Vraiment, je ne savais pas ce que c'était. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas comment on pouvait le ressentir et ce qu'on pouvait en faire. Et j'utilisais beaucoup, par exemple, la colère. Moi, c'est un truc que je faisais beaucoup. On parlera de l'orgueil, hein, parce que l'orgueil est le thème finalement de la rébellion d'Icare, qui n'écoute pas son père et les dieux. Mais moi, c'était la colère. J'utilisais la colère en fait pour me cacher derrière mes sentiments, pour ne pas éluder les problèmes, pour ne pas les résoudre. Quand j'ai compris que la colère servait à rien et que la douleur, en fait, c'était ce qu'il y avait vraiment derrière la colère, là, j'ai appris, j'ai commencé à grandir et à apprendre des choses. Donc, pour moi, c'est toujours un passage nécessaire pour accomplir les choses. Ça fait partie de ma vie et je trouve ça important. Et je suis aussi très satisfait de pas souffrir comme d'autres personnes. Donc, je relativise aussi. Voilà, c'est que ma douleur, c'est la mienne. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais des fois, elle est aussi plus
épineuse. Verte. Voilà. Oui, bien sûr.
C'est ça. Donc l'engagement c'est pas un vain mot. Les idées elles suffisent pas sans engagement. La stratégie est vide sans changement, sans passion, sans personne prête à affronter le vide. The void. On a déjà parlé également de cette importance du vide. Parce que vous savez le vide, c'est le vide. Je parle du vide conceptuel et cosmique. C'est ku en japonais. Hein, dans la cosmogonie des éléments, chi, sui, ka, fu et ku. Ku représente le vide. Les autres vous avez deviné. C'est cet endroit-là, le vide, en fait, qui appelle à être rempli par la créativité. Et donc, quand on va s'y confronter, bah, c'est là, en fait, il se passe des choses intéressantes. Et en fait, c'est tout. Ouais.
Et si on ne rentre pas dans ce vide, j'aime bien aussi cette image de la muse qui, si on n'est pas au rendez-vous, elle va aller murmurer à l'oreille de quelqu'un d'autre. Et on se dit, ah, mais j'avais juste idée. Ouais, mais t'as rien fait.
Ouais, c'est
t'as
ça.
Rien fait. Donc, la muse est partie.
C'est parti ailleurs.
À partir ailleurs et voilà.
C'est vrai, ben c'est sûr. Ça nous arrivait à tous. Et tout ça, en fait, c'est l'art de saisir les opportunités. C'est pour ça, en fait, quand on fait pas ce call to action, en fait, on se coupe. On se coupe des opportunités, on se coupe des possibilités, parce qu'en fait, on se réduit, on garantit, en fait, nos capacités basses. Les capacités basses, on les a. Seulement, maintenant, on est dans un monde où... beaucoup de gens ont plein de capacités, beaucoup de gens ont du talent, beaucoup de gens savent faire plein de choses et c'est pas là-dessus que ça se joue. Ça se joue sur l'engagement, le moment en fait où on décide d'y aller, de s'engager à faire de l'art. L'art c'est un choix personnel, c'est construit en fait sur une attitude singulière et ça demande du courage et le potentiel de tout changer. en soi, hein, évidemment. On change en soi pour changer. Changer l'extérieur. Évidemment, bah, ça rappelle à la phrase que vous avez sûrement déjà entendue. Le monde est rempli, en fait, de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires.
Oui, c'est important, je t'ai rappelé ça, ouais.
Bah oui. Alors, l'économie connectée, on y arrive pour en parler un petit peu plus, et puis du rôle de l'artiste en fait, dans cette économie. En fait, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a pu connaître il n'y a pas si longtemps, la rareté et l'abondance ont été inversées. Ça a flippé, d'accord ? Ça a switché. On trouve facilement du travail de grande qualité, partout. Le monde est rempli de personnes, comme j'ai dit, qui sont surqualifiées et compétentes. En gros, c'est la jungle. Voilà, c'est-à-dire que si tu t'attaques au marché là maintenant, va falloir se battre un minimum. En fait, les clients ou les gens avec qui tu veux travailler, etc., en fait, en réalité, ils ont beaucoup trop de bons choix. Ils ont pléthore, c'est la profusion. Par contre, ce qui est rare, c'est la confiance, la capacité à connecter et l'effet de surprise. Ça, ce sont des denrées rares. Et quand on sait les utiliser, ça peut vraiment changer le jeu. Game changers. La nouvelle sorte de rareté, c'est le travail émotionnel de l'art. En fait, c'est le risque de creuser profondément pour se connecter et surprendre. C'est la patience nécessaire pour établir la confiance, le courage nécessaire pour dire « je l'ai fait, j'ai fait ça ». Et tout ça, c'est rare et précieux. Et évidemment, tout ça, ça évolue tout le temps. En fait, l'art, il est flippant parce qu'il implique toujours de s'éloigner de la zone de confort vers l'inconnu. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Seth Godin lui-même et ça me fait super plaisir. « You are chaos and there is nothing to keep you out. »
Oui, deal with it. Et autant faire avec.
C'est ça. Et bah oui, tiens, on va se gêner. Et dans le chaos de cette économie connectée, en fait, de cette révolution 3.0, le réseau, en fait, il relie les gens les uns aux autres. Il relie les gens aux organisations et puis les gens aux idées. Et ça, c'est super powerful. Nous, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire, évidemment, sur Sens Créatif, c'est de relier les idées aux gens, les gens aux idées. Nous, on est vraiment dans cette partie-là de l'économie.
Ouais.
En fait, on essaye d'amplifier l'étrangeté et le réseau, en fait, il aide aussi les tribus à se former. Et nous, on est super contents d'avoir le Patate Club et on en profite pour vous remercier tous et toutes au passage.
Big up.
Big up. En fait, ce qu'on alimente vers le réseau, en fait, change ce que l'on obtient en retour. Ça, c'est... Là, on est dans du marketing, mais c'est super important. Parce que la valeur qu'on crée, elle est directement liée à la quantité d'informations précieuses qu'on peut produire. Parce qu'on peut aussi faire du produit pourri, des informations merdiques. C'est possible aussi. Mais on obtient en retour de la merde.
Ouais, voilà.
Évidemment. Puis c'est aussi lié à la confiance en fait, qu'on peut gagner. Parce que c'est évidemment... Vous nous faites confiance, on vous apporte des émissions, vous nous faites confiance avec les sujets qu'on aborde, les gens qu'on va rencontrer. Et puis aussi la fréquence à laquelle, en fait, on fait preuve de cette singularité aussi. Parce qu'on peut faire aussi des coups d'éclat, mais un coup d'éclat, ça te fait pas vivre toute ta vie, quoi. Évidemment. Faut pouvoir répéter cette logique.
Et c'est que la régularité qui peut plus ou moins garantir un coup d'éclat de temps en temps.
C'est ça. Malheureusement, j'ai envie de dire. En fait, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, alors moi, je suis un feignant qui aime bien faire des coups d'éclat. Bah, et c'est pas une bonne stratégie. C'est pas une bonne stratégie. Voilà. Et c'est pour ça que, bah, en grandissant, en évoluant dans cette carrière-là, j'apprends à être beaucoup plus régulier. Et puis aussi à reconnaître que ce que j'ai fait avant, c'est pas du flan, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aligner les choses. On peut les recycler, on peut s'en servir, on peut remettre au goût du jour d'anciennes idées qu'on pensait désuètes, mais qui en fait fonctionnent très bien, parce que c'est que des questions de cycle. Et tout ça est vachement important. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui compte, c'est pas tellement les constructions qu'on a réussi à faire. En fait, c'est les ponts qu'on construit pour relier les gens entre eux, en fait.
C'est du recyclage, c'est de l'éco-créativité. Au final.
Voilà, mais les ponts, eux, c'est pas de l'éco-créativité. Les ponts, il faut les créer.
C'est là, oui, c'est ça. C'est là où il y a la créativité.
C'est là où l'art.
C'est faire des liens. Mmh. Ouais, c'est ça où elle est là.
L'art, il se passe sur les ponts, il se passe pas sur les.
Et l'art, sur les, dis que sur l'art, les bords. Ça peut être une création, mais ça peut aussi être une attitude, genre, par exemple, de l'indulgence. Supposons que, par exemple, vous êtes venu à votre rendez-vous artistique et. je sais pas, par exemple, nous, on fait un épisode de Source Créatif, grosso modo, toutes les semaines en ce moment. Il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres. Mais là où certains épisodes sont peut-être moindres, si on n'était pas indulgent avec nous-mêmes, on ferait pas le pont pour se dire à un moment donné, dans deux mois, me dire « Eh, mais en fait, on avait fait ça, là, et ça, on peut le réutiliser. » Donc, du coup, le pont, ça peut être l'épisode en soi, mais ça peut aussi être l'attitude avec laquelle on l'a abordé. Et quand, par exemple, c'est pas toujours... quand on, ce qu'on crée n'est parfois pas au rendez-vous, eh ben, c'est pas grave. C'est tout, tout se recycle, tout se réutilise. Et si on s'attache à ce sentiment de honte, ben, on le jette aux oubliettes et on ne permet pas à la magie de s'opérer et de la réutiliser à un moment donné ou quelque part, on sera peut-être mieux aligné ou les circonstances seront meilleures.
Et le statu quo, il va t'amener à ce sentiment de honte. Parce qu'en
fucking statu quo de merde.
Bah oui, mais c'est fait pour ça. Il va se connecter à ton cerveau reptilien. Et c'est là où, en fait, la peur, la honte, vont prendre beaucoup d'importance. Mm-hmm. Et c'est pour ça que tout ça se travaille, parce que on peut être vite flippé par tout ça.
Ok. Voilà. Donc alors.
Voilà. Donc il y a les postures de l'artiste. Je vais te dire rapidement. Il y a le leader, il y a l'initiateur, il y a aussi le rebelle. En fait, vous faites ce que vous voulez, mais c'est ce genre de posture, en fait, ou d'attitude qui logiquement, en fait, vous aideront à aller dans cette nouvelle économie connectée. Voilà. Il y avait une petite phrase sympa. J'adore faire des phrases en anglais avec mon accent pourri, mais allons-y. Art is the only option if we choose to care. Donc,
art
to care, s'associer.
Art is the only option if you choose to care. Voilà. Ouais, c'est joli.
Prenez soin, si, voilà, si vous vous souciez, en fait, l'art est finalement là. The only way.
Oui. If you don't care, please don't make art. just stop it.
Il est génial. J'aurais pas dit mieux. Alors.
Bah, merci.
C'est pas la fin. Du tout. Non, enfin, on va attaquer la partie, à mon avis, qui va te ravir, Jérémy, parce qu'on va attaquer la partie divine de cet épisode. Je vous avais promis qu'on en parlerait. Je vous parlais du miroir divin des mythes. Qu'est-ce qu'il raconte ?
Ok. Mais qu'est-ce qu'il raconte ?
Pourquoi le miroir ? Les mythes, en fait, sont des vérités anciennes sur ce dont nous sommes capables. D'accord ? Ce sont des choses qui ont été écrites il y a longtemps et qu'on transmet de génération en génération. En fait, les divinités que nous créons nous ressemblent beaucoup. Dans notre meilleure version de nous-mêmes, et parfois dans la pire des versions. En fait, nos dieux sont super humains. Ils sont forts, ils sont cool, ils sont orgueilleux, ils sont terribles aussi parfois. Et évidemment, nous les idéalisons. Persévérer, se connecter, on en a parlé, et contribuer avec générosité, c'est ce que font les dieux dans ces histoires. Et c'est la raison pour laquelle on les a inventés. Attention, je veux toucher aucune croyance, vous m'entendez bien. Je parle des histoires qui ont été écrites. Pourquoi nous les vénérons? Et pourquoi ils résonnent en nous? C'est justement grâce à ces histoires. En fait, on les a à l'intérieur de nous tous les jours.
C'est le miroir.
Ouais, depuis des générations. Et c'est là où se joue ce jeu du miroir. Alors, les dieux, c'est nous en quelque sorte. Mais cependant, en fait, on a été dupés en pensant qu'on n'avait pas le droit d'agir comme eux. Que c'était réservé aux dieux. Tu vois le truc? Et c'est pour ça qu'on parle de supercherie d'Icare dans ce livre de Seth Godin. Parce que cette supercherie-là, en fait, elle nous pousse même à ne pas y penser. Parce qu'on nous a averti. T'as vu ce qui se passe quand t'écoutes pas. Donc du coup, ok, c'est pas pour nous. Nous, on est des humains. Nous. On va plutôt s'amuser à écrire les histoires plutôt qu'à les vivre. C'est quand même plus safe.
Ouais. Ben ouais. Je te laisse dérouler, mais ça me fait penser.
Tu diras après, ça marche.
Ouais.
En fait, cette supercherie, en fait, elle nous impacte profondément au niveau de notre psychisme, parce que elle joue sur ce fameux brain, lies out brain, en fait, avec l'alerte rouge, les dangers sur l'orgueil. C'est pas bien d'être orgueilleux, attention, c'est pas bien. Non, évidemment, l'orgueil, c'est tout le sens, en fait, des dieux. C'est ce qui caractérise les dieux, c'est qu'ils ont de l'orgueil. Bah, c'est pas de bol pour le statu quo, parce qu'en fait, on a fini par construire, et c'est ce que tu disais, un monde, en fait, où la seule option, c'est l'orgueil. Et en fait, où l'avenir, il appartient à quiconque veut agir comme les dieux des mythes. Et c'est pour ça que le marketing a ce vent en poupe. C'est pour ça que tout le monde s'y met, parce qu'en fait, ça a un appel. Et on est d'accord qu'il y a une histoire d'injonction, mais c'est un appel à devenir des dieux, en fait, à créer comme des dieux, en fait. à ne pas se fixer de limites et aller à fond. On a parlé des nuances tout à l'heure. Mais on va aller vraiment pas du côté du marketing, on va plutôt aller du côté de l'art, parce que le marketing, on en imagine les limites. Par contre, l'art, je pense que les limites, vas-y, time out.
Pour moi, non, pardon.
Ah, c'était pas un time out. C'était pas un time out.
C'est une croix, c'est mon illustration. C'est justement, c'est la petite minute théologique, mais c'est, on peut être parfois tenté par soit que la verticalité, soit que l'horizontalité.
Ouais.
C'est-à-dire, l'horizontalité, c'est je ne suis qu'un humain, c'est tout ce qui est terrestre, c'est tout ce qui me rattache à la terre. Et c'est une bonne chose, les deux, l'horizontalité et la verticalité sont bonnes. L'autre tentation, c'est d'être que dans du vertical et que dans de la pensée, que dans du divin, que dans du... On n'est pas au contact de nous et on se croit peut-être plus qu'on est, on se prend peut-être pour plus. Et en fait, la créativité, quelque part, ou pour reprendre l'exemple de la croix ou du crucifix, c'est intenable en fait au milieu. C'est cette rencontre entre le vertical et l'horizontal, c'est la tension exactement. Et en fait, quand on est dans cette forme de crucifix, vous m'excuserez pour la métaphore religieuse.
Ah, tu parles de ce que tu connais, tu as raison.
Mais en fait, c'est super dur en fait, parce que on est pleinement dans notre humanité et on est pleinement dans notre divinité, et c'est dur, mais c'est là où il y a de la magie en fait. C'est là où il y a de la magie de la créativité, pour revenir sur le thème d'aujourd'hui. Et c'est là que ça y a du boxon, il y a du bordel, parce qu'en fait c'est ingérable, et en même temps, c'est là où tout se passe, et que quand on se dit que on doit être que dans des règles, dans du beau marketing, dans quelque chose d'intelligent, de quelque chose de une démarche d'auteur ou que sais-je, et donc du coup là on est que dans de la verticalité, et quand on est que dans de l'horizontalité, moi je ne suis pas un artiste, moi je ne suis qu'un être humain, eh ben du coup on empêche la magie d'opérer. Et donc du coup c'est d'épouser quelque part pleinement notre horizontalité, notre humanité, de notre verticalité, de notre cachet, si on peut utiliser ce terme-là, divin. Et là, il y a de la magie qui opère.
Très belle parenthèse. D'ailleurs, comment tu traduirais le fait d'accomplir une action divine ? Est-ce qu'il y a un mot qui existe pour ça en français ou en anglais ?
Ah, c'est trop chargé comme terme.
Ouais, c'est trop chargé. Bah, heureusement, il y a les Japonais.
Vas-y, heureusement qu'ils sont là, les Japonais.
Bah, les Japonais, évidemment, ils ont baptisé depuis longtemps ce concept. En fait, c'est le Kamiwaza.
Vas-y, développe.
Alors, Kamiwaza. En fait, si vous avez des amis japonais et que vous leur demandez de traduire Kamiwaza, il y a de fortes chances, en fait, qu'ils vous répondent que c'est quelque chose que seul Dieu peut faire. Ce serait la traduction un petit peu littérale. Et si les dieux, c'est nous, alors est-ce que nous, on aurait l'audace de faire ce que les dieux font? Alors, je vous rentre un petit peu dans Kamiwaza. En fait, dans chaque domaine de l'art traditionnel japonais, l'expression Kamiwaza signifie à la fois technique et Dieu. Waza, c'est la technique, Dieu, c'est Kami. Et ça désigne donc une technique qui semble parfaite, ou du moins qui est proche de la perfection. Et ce terme, en fait, il exprime à la fois l'admiration et la peur de celui qui crafte. Il pratique l'art d'une manière familière, parce que l'art est répandu, mais en même temps, d'une manière inaccessible, parce qu'il y a une différence de niveau qui le fait paraître inaccessible. Il a un level de craft qui est tellement fou qu'on dit qu'il fait Kamiwaza. Des exemples, très simples. LeBron James qui joue au basketball, c'est Kamiwaza. Miles Davis qui joue de la trompette, c'est Kamiwaza. Pierre Hermé qui fait un éclair au chocolat, c'est Kamiwaza. Voilà. Ils font des choses que tout le monde peut faire, mais ils le font à un niveau de qualité qui est tellement énorme que c'en est presque divin, que ça devient mythique et légendaire. Kamiwaza, c'est l'expression de notre divin intérieur à travers notre art et notre craft. Fabuleux, quand même. Les Japonais, ils pensent à tout, c'est du délire. Et il s'exprime purement et sans conscience de soi. C'est-à-dire que quand LeBron James joue au basket, il joue au basket. Il se dit pas, je suis le grand LeBron James, je fais des choses merveilleuses et les autres sont nuls.
Non, il pense pas à ça. Il est sur le terrain.
Miles Davis, il joue de la trompette. Pierre Hermé, il est concentré uniquement sur le fait de faire un bon gâteau. Ils sont pleinement dans, et ça, c'est quelque chose qui nous rapproche aussi de la notion de flow.
C'est à chérir.
Voilà, exactement, c'est ça. Donc, comme on l'a démontré, en fait, l'orgueil nous rend divin et être divin nous rend humain. La boucle.
Ah, la boucle est bouclée. Voilà, c'est pas mal, ça. Voilà. C'est se connecter à notre divin pour revenir à notre humanité partagée. Et si on parle de grâce, comme dit Lou Bimi.
L'état de grâce, super. Bah, Lou, c'est exactement ça, l'état de grâce. Et évidemment, si on parle d'orgueil, on doit aussi parler d'humilité. Et ça, l'humilité, bah évidemment, on en a des kilotonnes à revendre. On est tous des super modestes en puissance. On a construit des couches et des couches.
Non, ça, c'est de la fausse humilité.
Ouais, c'est ça. On a construit des couches et des couches de cette fausse humilité. En fait, c'est de la propagande. Ça. C'est pour renforcer justement cette fausse humilité, cette fausse modestie, en fait, de l'artiste qui cache, et parfois se cache derrière, son art. En fait, on est consumé par l'humilité de se la jouer safe. On continue à voler trop bas, et on a tellement peur de faire preuve d'orgueil, tellement peur, en fait, de la honte de nous faire dire qu'on a voler trop haut, et on est tellement paralysé par la peur de ne pas nous intégrer. En fait, qu'on accepte docilement la propagande du statu quo, et qu'en fait, on ne fait pas ce dont on est capable.
Voilà. Et ça, c'est bien dommage.
C'est bien dommage, c'est pour ça que l'art exige que l'on s'engage, le terme est important, ouais, dans la voie du kamiwaza. Voilà. On ne va pas devenir kamiwaza comme ça, hein, évidemment. L'art, ce n'est pas vraiment de l'art tant qu'il n'est pas connecté au moins une autre personne, comme on a dit, ou qu'il l'ait touché. Et c'est là l'énorme différence entre l'art et le marketing direct. Parce que le marketing direct, hein, c'est simple. Hein. Si tu fais ça, tu obtiens ça. Voilà. En gros, c'est un peu le principe. Avec l'art, le deal, c'est plutôt...
Tu verras.
Tu devras le faire ou tu devras l'explorer si tu veux qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et l'orgueil impliqué, en fait, dans cette décision-là, il est vraiment powerful. Parce qu'en fait, on imagine peut-être que ça ne marchera pas. Mais on pourrait... aussi se dire, si on est un tout petit peu plus engagé, peut-être que ça pourrait ne pas marcher. Tu vois la nuance ? Peut-être que ça ne marchera pas versus peut-être que ça pourrait ne pas marcher.
Et autant y aller quoi qu'il en soit.
Autant y aller, voilà.
Et puis après,
je me suis dit,
du temps,
on s'en balance.
Tu rééquilibres. Ouais. Ouais,
en fait, on nous a appris que seul un dieu mythologique, en fait, il a le droit d'aborder le monde avec ce genre de confiance en soi. Et évidemment, bah, les chances de succès commencent petites. Elles augmentent lentement. C'est-à-dire que, évidemment, on n'est pas des dieux non plus. Et l'engagement d'une fois sur un acte de kamiwaza, ça suffira pas. Il faut s'engager une vie entière en fait d'actes de kamiwaza. Si on commence seulement aujourd'hui, c'est pas grave. C'est juste un entraînement et on s'y met et on le fait en fait. C'est un processus. C'est pas du tout un coup d'éclat. Et en fait, notre craft et notre art et vice versa.
Oui, oui. Je trouve que s'engager n'a rien. D'un coup d'éclat, en fait. C'est quelque chose qui se fait à l'abri des regards, et évidemment, il se fait remarquer parce qu'on est engagé. Donc, du coup, par exemple, s'engager publiquement et pas tenir sa promesse, c'est peut-être un petit peu dommage. C'est mettre un peu une grosse emphase. C'est un truc que tu m'avais même fait remarquer sur la newsletter Sens Créatif avec le Ninja Créatif où je t'avais dit parce que du jour au lendemain hop t'avais rajouté le Ninja Créatif dans la newsletter et je t'avais dit on devrait peut-être faire une newsletter pour justement en parler. Tu m'as dit on s'en bat les couilles, on y va quoi. Genre il y a pas besoin de faire justement un coup d'éclat pour dire je vais faire ça. Tu l'as juste fait et ça a très bien marché. Il y a pas eu besoin de
ça partait je l'avais pas conscientisé, mais ça partait de cette idée là de se dire on le fait et puis
mouvement,
c'est tout pas de marketing et on fait du mouvement,
just do it et puis on verra bien.
En fait, quand on hésite à s'engager, en fait on sabote notre créativité. Et pourquoi on hésite à s'engager? Parce qu'on est en fait attaché à ce qui pourrait peut-être arriver. Tu vois, ça c'est la peur de l'échec, de la réussite. Vous connaissez le topo, mais cet attachement là en fait il tue notre créativité. Et renoncer à notre attachement, à ce qui pourrait arriver, c'est une partie essentielle de l'engagement. Je m'explique là-dessus. À mesure, en fait, qu'on s'attache à des retours positifs, c'est cool, hein, on a des retours positifs, mais à mesure qu'on s'y attache, en fait, on commence à imaginer ce qui se passera s'ils n'arrivent plus.
Ouais.
Et animé par cette angoisse, l'attente, en fait, on altère ce qu'on fabrique pour augmenter les chances que ça se produise. Et quand ils ne se produisent pas, et bah du coup, on commence à remettre en question notre créativité et encore à la modifier encore plus, encore à l'altérer, à la teinter, etc. Puis en fait, au bout du compte, en fait, on fait plus du tout d'art. Et c'est ce que tu disais. On finit par faire du marketing, puis pas du bon marketing en plus.
Oui, on vend du vent.
Il
y a rien de pire. Moi, ça me.
Alors évidemment, on a dit c'est pas non plus bien d'être dans cet alignement de pureté absolue. Mais et puis évidemment, il faut savoir pivoter et translater un petit peu, mais si on abandonne tout ce qui fait en fait notre créativité, parce qu'en fait on a juste peur de l'angoisse de l'altérer, c'est là en fait on fout tout par terre. Et en fait un projet créatif, l'art, c'est une évolution un développement constant. C'est important de voir qu'il est jamais figé. On a un petit peu charrette sur le temps, donc je vais pas vous parler de Moon and Musso. Mais si ça vous intéresse, le Moon and Musso, en fait, c'est un petit peu la pratique spirituelle des samouraïs qui consistait à se détacher en fait de tout. C'est-à-dire, on n'a pas de désir, on n'a pas de pensée.
Voilà. Ouais, ouais.
C'est encore voilà, pour vous dire que tout ça a été évidemment déjà expérimenté dans l'histoire de l'humanité par des personnes qui s'y connaissent. En fait, la perspective d'être apprécié pour son art est effrayante parce que ça signifie qu'en fait, qu'on ne peut pas mesurer le résultat pendant la planification et pendant l'exécution du projet. Et en fait, ça nous oblige à nous engager dans nos actions, indépendamment de tout attachement qu'on pourrait avoir par rapport à ce qui pourrait arriver ensuite. L'art n'est pas le résultat, c'est pas un résultat en fait qui se quantifie.
C'est juste du don.
C'est du don, c'est ça, la générosité. Mmh. Et donc, c'est un engagement total dans le processus, dans une direction. Et comme tu disais, bah voilà, c'est un peu le gros mot, c'est la direction de la générosité. Voilà. Mmh. Donc quand on pratique l'art sans attachement, Moon and Musso, et que l'on est dans le flow, et ben en fait on s'approche de l'état de Kamiwaza. Voilà.
Waouh.
Donc si jamais vous avez peur justement des critiques ou des mauvais retours hein, dans ce que vous publiez, dans ce que vous faites, dites-vous aussi toujours que les critiques ont tout le temps faux et que vous pouvez les retourner comme des crêpes. C'est notamment Keith Richards qui disait que eux ils cherchaient pas une méthode correcte, ils cherchaient toujours la méthode incorrecte, toujours dans le contre-courant de ce qu'on attendait. Et puis j'ai aussi l'anecdote super rigolote d'un restaurateur en fait qui avait reçu une grosse note de merde, je ne sais plus sur quelle plateforme, où un gars en fait disait c'est le pire sandwich que j'ai jamais mangé de ma vie. Et en fait lui il en avait fait de la com de cet avis là. Il avait dit venez dans mon restaurant, c'est ici qu'on mange le pire sandwich de la vie de ce mec là.
Ouais.
Voilà. Donc on peut toujours retourner une critique, c'est pas un problème.
J'ai bien aimé aussi Hugo Bienvenu la semaine dernière qui nous disait rappelle-nous. Que moi ça a vraiment fait un petit peu de tilt où c'est un processus comme tu l'as dit et de l'extérieur les gens ne voient pas le processus. Et donc toi si tu sais où t'en es et qu'on te fait des retours, tu sais c'est comme quand tu files un croquis à un client et qu'il n'arrive pas à se projeter dans le produit fini et qu'il est genre ouais mais bof mais c'est parce que c'est pas fini, OK. Moi je sais où je vais. Et donc, du coup, si vous savez, si votre boussole intérieure est suffisamment ancrée, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous faites les choses, gardez ça précieusement. Parce qu'en fait, tous les inputs extérieurs qui sont juste pas aussi, au fait de ce que vous faites, c'est juste un regard extérieur non informé ou pas complet, ce serait dommage de se laisser balloter constamment par les commentaires. D'ailleurs, c'est encouragé hein, dans notre manière de communiquer aujourd'hui, mais en fait, c'est pas naturel de se sentir le droit de commenter sur tout le monde et de recevoir comme parole d'évangile les commentaires de tout le monde. Au final, c'est vous qui êtes responsable, c'est vous qui savez. Et si vous avez besoin de persévérer dans une direction, faites-le. Ça se trouve peut-être les commentaires ont raison, mais c'est important qu'à un moment que ça vienne de vous et que c'est pas l'autre au final qui après il faut savoir écouter. Hein, mais
si vous y croyez, faites-le. Si vous cassez la gueule, relevez-vous. Voilà, c'est un peu le principe. Si votre art est merdique, faites-en un meilleur. Voilà.
Ouais.
Non mais c'est vrai.
Ou devenez le maître des nanars par exemple, faites des mauvais films.
Voilà.
Tu vois,
genre, ça peut devenir une compétence, devenir voilà. Un talent.
Ouais.
Pour revenir, pour boucler un petit peu sur les dieux avant d'attaquer notre dernier chapitre, les dieux de nos mythes en fait font souvent face à des conséquences horribles et c'est important de le rappeler. Hein, ils vivent des histoires de fous. Ils sont bannis du royaume et puis ils sont laissés comme ça, laissés à manger pour les charognards pour l'éternité. Hein. Quand ils font une connerie, c'est la punition assez méchante. Mais notre culture industrielle en fait, évidemment, elle fonctionne pas comme ça. Si une entreprise se casse la gueule. Si un projet échoue, en fait, personne n'est brûlé sur une croix, tu vois, ça n'arrive pas. La souffrance, elle est jamais aussi longue que nos peurs voudraient nous le faire croire. C'est aussi toujours ce qu'on a appris qui nous fait j'ai peur des conséquences.
C'est en fait, le conditionnement.
Qu'est-ce qui va arriver au pire? Quand un projet artistique échoue, il disparaît. Tout simple.
Ouais. Voilà. Pareil, c'est notre attachement au projet.
Oui, l'attachement au projet qui nous.
C'est de mourir dans notre petit ego, là, qui est compliqué.
Ouais, c'est ça, on meurt dans notre petit ego. Dans l'économie connectée, en fait, ce sont ceux qui ont peur de s'engager Et je parle pas d'échec ni de réussite, hein. Juste de simple fait de se mettre en action, de s'engager, qui sont punis. Voilà. Mmh. C'est dur à entendre, mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que pendant des années, j'ai pas voulu m'engager sur les réseaux sociaux. J'ai pas voulu, j'ai voulu rester dans ma zone de confort d'artiste qui pensait que les gens allaient toujours venir le voir. Et j'en ai fait les frais.
Pas autant, t'aimes toujours pas autant les réseaux sociaux.
Ah non, j'aime toujours pas autant, mais mais j'ai transféré ma zone de confort, oui, sur la nouvelle zone de sécurité, et c'est, ouais, beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, mmh, comme ça. C'est pas mon monde idéal, mais n'empêche, c'est quand même ma zone. Alors je fais ce que je veux dans ma zone, et je, mmh, me fais pas avoir, et on me contrôle pas. Voilà. Et en fait, c'est toujours ça l'idée. C'est vraiment être essayer de pas être, de pouvoir rester quand même aussi dans le contrôle de ce que je fais avec mes règles, mmh, à moi. Et pas, mmh, les règles du statu quo. Oui. Mais je dois faire attention à la zone de sécurité. Et oubliez pas, la zone de sécurité, c'est pas la zone du statu quo. Hein. La zone du statu quo, elle essaye juste de vous berner et de vous faire oublier que la zone de sûreté est dissociée. Hein, c'est le petit schéma, je vous le remets. Est dissociée, hein, de la zone de confort. Hein. C'est juste ça. Voilà. Et je remets Jérémy. Voilà. Donc voilà. Donc, Kamiwaza, pour résumer, en fait, c'est en vérité, en fait, c'est plus facile à faire que d'en parler. Parce qu'en parler, c'est un petit peu compliqué. Donc, allez-y, engagez-vous et agissez comme des dieux et des déesses. Personne ne vous en voudra.
Engagez-vous, qu'il disait. Engagez-vous.
Alors, pourquoi a-t-on peur de suivre nos rêves? Et ça, c'est un petit peu le déclic que j'ai eu pour faire ce boxon. Bah, évidemment qu'on a peur. Pourquoi on a peur? Bah, parce qu'on a peur. Bah oui, mais en fait, si on revient au temps de la préhistoire, imaginez, vous êtes dans votre grotte avec votre tribu et vous dites une connerie, hein, un truc qui remet, vous pensez que c'est une super idée, ça remet un petit peu en question la vie du groupe.
Et bam, tu t'en prends une.
Bah ouais, déjà on s'en prend une, puis après on est banni de la grotte en conséquence. Et en fait, on est laissé à nous-mêmes parmi les animaux de la jungle. Et en fait, on a ça dans notre cerveau reptilien, c'est-à-dire que ce truc-là, il est ancré pour toujours, et c'est un truc avec lequel on doit se battre. En fait, et en être conscient, c'est un petit peu important. Parce qu'en fait, le lézard, il est toujours en état d'alerte maximum, quoi, quand ça arrive. C'est pour ça qu'on a peur de parler en public. C'est pour ça qu'on a peur, en fait, de donner des idées, d'échanger, de connecter. Parce qu'on a peur de ce rejet-là. Et évidemment, en fait, le lizard brain, en fait, il nous dit qu'on ferait mieux de prendre aucun risque inconsidéré. C'est beaucoup plus safe. On vit une vie tranquille et il se passe rien. Et c'est très cool pour le cerveau lézard. Lui, il est content. Et les risques inconsidérés, il nous dit, bah, c'est fait pour les dieux, Coco. C'est pas pour toi. Et c'est exactement de ça que parle Limite, en fait. Dans nos vies de tous les jours, dans nos vies banales, ça peut pas arriver. Bah non, parce qu'on préfère, comme je disais, écrire les histoires-là, en fait, que finalement, se confronter à des risques inconsidérés que les dieux prennent pour accomplir leur mission, quoi. Les dieux, c'est nous. Et puis les dieux, bah, ils sont un peu timbrés, quoi. C'est ça, en fait, qu'il faut accepter. C'est que les dieux sont fous. Nous, on est fous, on est schizo. Et voilà. Et d'ailleurs, ça m'amène sur une de mes séries TV préférées, Vikings, avec Ragnar Lodbrok.
Ah, ça y est.
Voilà, il est devant toi, juste en bas. Voilà. Non, il est de l'autre côté, Laurent. Laurent, il est perdu avec sa caméra. Il est comme ça, voilà. Et le pauvre Ragnar, alors ça, c'est une scène géniale dans Vikings, parce qu'en fait, c'est quand Ragnar est vieux et qu'il revient, en fait, à Kattegat, hein, son village natal. Il est censé être roi des Vikings. Et en fait, il a fui ses responsabilités, il s'est caché pendant quelques années. Il a pas du tout accompli son devoir de roi. Il revient comme un clochard, en fait, comme un SDF. Et il demande à tout le monde qui veut être roi à ma place. Évidemment, pendant ce temps-là, bah, personne n'a osé être roi. Bah, en fait, depuis, ses filles sont grandies, etc. Et je vous le dis pas, vous avez qu'à regarder la série. Mais ce que je veux dire, c'est que Ragnar, en fait, est un personnage incroyable, hein, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas Ragnar Lodbrok.
Ah, c'est faut réussir à le dire. It's mouthful.
C'est scandinave. En fait, donc c'est Viking. En fait, c'est une fiction historique, en fait, qui romance la vie du supposé Ragnar Lodbrok. En réalité, c'est plusieurs rois, hein, qui ont été remis en un seul, mais le mythe veut que ça soit un seul homme. Et donc, c'est un fermier scandinave au 9e siècle, en fait, qui est poussé par ses rêves et qui devient un explorateur insatiable. Il décide de prendre la mer, de découvrir de nouveaux territoires. Et en fait, il régna malgré lui sur ce qui fut une partie de la Suède et du Danemark. En fait, il est devenu roi, mais parce qu'en fait, il a accompli des choses formidables qui font qu'il est devenu roi, tout simplement. Lui, là, il voulait pas du pouvoir, en fait. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était connecter les gens, découvrir des nouveaux territoires et faire finalement une espèce de révolution culturelle. Il était créatif, audacieux et imprévisible, ce qui font un petit peu aussi le sel d'un artiste. Mais en fait, Ragnar, il aurait aucun intérêt s'il n'était pas profondément humain. On rentre à nouveau dans cette idée de mythe, les dieux, les humains, etc. En fait, il était faillible, il était rempli de doutes et de contradictions. Il était malheureux en amour, il était écorché en amitié, mais il était contraint à faire des choix qui vont lui coûter. Et en fait, le fait qu'il fasse des choix, qu'il décide la peste ou le choléra, bah finalement, choisit le choléra, bah cette fois-ci, il choisit la peste, c'est ça qui va faire que ça va devenir un héros. Et c'est ça qui est fabuleux, en fait, dans cette histoire. C'est pour ça que je vous invite, si vous avez l'occasion, à regarder la série Vikings, juste pour ce personnage. Il y a plein d'autres personnages intéressants, dont Floki, qui est complètement, lui, dévoué aux dieux, justement. C'est intéressant d'avoir le rapport aussi entre ces deux personnages. Mais ce qui est fabuleux, c'est que Ragnar, il va jusqu'à défier les dieux. Je vais remettre Jérémy. Hop, pardon, hop, te revoilà. Il va jusqu'à défier les dieux. Et les dieux vikings, c'est parmi les plus terribles qui aient pu exister. Hein. C'était des fous furieux, sanguinaires. D'ailleurs, si tu mourais au combat, c'était un honneur puisque tu montais au Valhalla pour faire un banquet avec les dieux. Et finalement, Ragnar, il a accompli des faits, il a accompli des actions, en fait, dont on pensait que juste seuls les dieux étaient capables. D'ailleurs, dans la série, en fait, Ragnar, il dit « Je ne crois pas à l'existence des dieux. L'homme est maître de son propre destin, pas les dieux. Les dieux sont la création de l'homme pour donner des réponses qu'ils ont trop peur de se donner eux-mêmes. »
Ah ouais, c'est pas mal ça.
Alors évidemment, hein, ce sont ce que les scénaristes lui font dire, mais j'aime bien la pirouette en fait. J'aime bien la pirouette. Parce qu'en fait, il est sans arrêt confronté au divin. En fait, on est toujours en train de lui rappeler le divin. On lui dit que lui-même est un demi-dieu. On dit qu'il est descendant d'Odin, carrément. Évidemment, lui, il ne croit pas à tout ça. En fait, il croit à sa vision, il croit à sa mission. Et à ce qu'il a à accomplir. Évidemment, bah, il passe par des hauts, des bas, et des bas vraiment très bas. Et il finit, en fait, Ragnar, dans une fosse aux serpents, mordu par des serpents, sous la vengeance d'un roi anglais, en fait, qu'il avait contrarié. Voilà. Donc, en fait, Ragnar devient dieu malgré lui. Et ça, c'est un petit peu super. C'est vraiment l'esprit du Kamiwaza, quoi. Il accomplit ses rêves en dépit du statu quo de l'époque. On lui dit, ça, tu peux pas le faire. Ça, t'y arriveras pas. En fait, il arrive. À force de persuasion, à force de croire en lui, d'avoir cette confiance, en fait. Et comme je disais, ouais.
Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, qu'on embrase notre nature divine uniquement en nous engageant et en nous mettant en mouvement? Et
peu importe nos croyances.
Et malgré nous, la nature divine, la magie de la créativité opère. Et ouais.
Là, c'est ça.
C'est fort et humble à la fois, en fait. C'est puissant et humble à la fois.
C'est ça. C'est vraiment cette dualité qui est très intéressante. Alors, peut-être que ça pourrait ne pas marcher. Hein, c'est le mantra, en fait, dont on parlait tout à l'heure. C'est de ce postulat-là que vient la vulnérabilité. Pardon, j'y arrive. Parce que on pourrait se dire peut-être que ça va pas marcher. Peut-être que ça va marcher. Mais en fait, quand on dit peut-être que ça pourrait ne pas marcher, on se met en fait dans cette zone de vulnérable qui est hyper propice à la créativité. Parce qu'en fait, on va se donner le droit à l'erreur, on va se donner le droit à l'échec. Et ça, c'est super, super important. Quand on a compris ce truc-là, en fait, c'est là où on se dépasse et c'est là où on va aller vraiment chercher à l'intérieur de nous-mêmes en fait ce qui nous fait vivre et qui va nous nourrir et qui va nous faire nous dépasser. Kamiwaza, en fait, ça signifie pas tout puissant et parfait. Si les dieux étaient parfaits, en fait, les mythes que nous racontons, ils auraient aucun sens. Ça servira à rien. La valeur de l'art, elle réside justement en fait dans notre volonté de regarder le risque dans les yeux et d'embrasser le vide d'un échec possible. Le changement, c'est un matériau puissant, mais le changement en fait s'accompagne toujours d'une possibilité d'échec. Donc en fait, faut être conscient de ce truc-là. Donc ça pourrait ne pas marcher, c'est accepter d'embrasser donc la possibilité de l'échec, et c'est quelque chose en tant qu'artiste en fait qu'on a tout intérêt à rechercher.
Quel meilleur manière de finir ce boxon créatif, mon ami.
Voilà. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi faire de l'art, Jérémy? Bah, parce que vous devez en faire. La nouvelle économie connectée, elle l'exige, puis elle vous récompensera, en fait, et pour rien d'autre, de toute façon. Si vous le faites, vous êtes récompensé. Si vous le faites pas, vous n'êtes pas récompensé. Et parce que vous pouvez en faire. En fait, l'art, c'est le propre de l'humanité. L'art n'a pas de carte clé en main. il n'y a pas de manuel avec des consignes, il n'a pas de méthode garantie satisfait ou remboursée, comme en marketing. D'accord ? L'art, c'est un choix. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est votre choix et pas celui d'un autre. Voilà. Peut-être que ça pourrait ne pas marcher.
Boum ! Eh ben, dis donc, c'était des montagnes russes, hein, tout ça, quand même. Ça.
Eh ben, tu n'y crois pas si bien dire, parce que la montagne russe est un divertissement qui a été créé pour nous faire flipper et pour faire jouer sur le cerveau reptilien.
C'est vrai, ça, c'est vrai. Exactement. Et c'est pour ça que c'est excitant. C'est pour ça qu'on veut aller sur les montagnes russes.
Exactement, oh c'est là ça. Là, là, là. C'est exactement ça. La société est faite de montagnes russes.
De haut et de bas.
De haut et de bas.
Bon, bref, on pourra encore parler pendant des heures.
Oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Laurent. C'était top. Un nouveau boxon créatif inspiré par le livre The Icarus Deception de Seth Godin. Merci beaucoup pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous si vous nous avez suivis en direct sur Twitch.
Ouais, merci, merci tout plein. J'espère que vous n'avez pas la tête comme une pastèque. En tout cas.
Il va falloir le réécouter quand même. L'épisode, il était dense, il y avait beaucoup de choses, mais c'était hyper intéressant. C'était intellectuellement et émotionnellement très stimulant. Merci à toi. On vous donne à toutes et à tous, enfin, si vous êtes membre du Patate Club, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode exclusif des Keepers of the Keys en compagnie de Fred Benaglia.
Exactement.
Qui est un ami de longue date à toi et qui est directeur artistique chez Bayard Jeunesse. Ça fait longtemps, je pense 15 ans qu'il y est.
Même plus.
Même plus. Voilà.
Il donc, a plus si de 20 ans de carrière en tant qu'illustrateur.
Ça, c'est cool. Donc, cet épisode est exclusivement réservé aux membres du Patate Club qui nous soutiennent à partir de 5 euros par mois. Venez rencontrer, écouter l'histoire d'un DA et lui poser des questions. Si
ah ouais,
vous
là,
avez
là,
envie
allez-y, quoi. En presse jeunesse, il connaît tout.
De percer là-dedans, ouais, carrément. Et pour les autres, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour, je crois que ce sera un Radio Patate.
Ce sera déjà un Radio Patate, ouais. Ce sera le deuxième du mois de mai. Le mois de mai est dense.
Oui, c'est ça.
Et on vous dira qui on reçoit.
Voilà, pour la fin, enfin, la toute fin du mois de mai et le mois de juin. On vous donne aussi rendez-vous pour ceux et celles qui peuvent le faire ou qui veulent, en tout cas on se réjouit d'avance, de nous rejoindre au Festival Nîmes Illustre, 3e édition, 2e week-end du mois de juin, 10, 11, 12 je crois, ou 9,
c'est
10, 11.
Le 9, 10, 11, ouais, on y sera 9, le 9, 10, 10 11. 11. Et ça sera le 10 pour l'épisode en live
en public.
Et en public de Sens Créatif.
Voilà. Donc ça va être très très cool. On espère que vous serez nombreux. Ouais. Et puis on ira manger des pizzas et boire des bières dans la ville avec les patates. Ou pas, hein. Venez nous faire un petit coucou.
Ouais.
Même si vous n'êtes pas dans le Patate Club, c'est all inclusive. Ben, sur ce, il est 14h05 pour ceux qui nous suivent en direct. Et encore, one more in the box. Merci Laurent. Merci à tous. On vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!
Ciao, Kamiwaza!
Kamiwaza! Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon ou Tipeee. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas,
everything is connected!
dévoile.